et bienvenue dans les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Irène et ce mois-ci, je reçois Malek Amiri. Malek est doctorant à l'Université de Laval, au Québec, dans une discipline pour laquelle les doctorats sont rares en France, les sciences infirmières. Il va nous parler de son sujet de thèse un peu plus en détail juste après, mais tout d'abord un petit avertissement. Dans ce podcast, nous allons parler de cancer, de maladies graves, de fin de vie et d'angoisse face à la mort. Si ce sont des sujets qui vous touchent, ou si vous n'êtes pas dans un état d'esprit qui vous permet d'entendre des échanges à ce sujet, vous pouvez encore arrêter ce podcast. Bonjour Malek, tu es doctorant en sciences infirmières à l'Université de Laval au Québec. Tu as 28 ans et tu es en deuxième année de doctorat. Tout d'abord, j'aimerais te demander de nous décrire un peu les études qui t'ont conduit à ce doctorat.
Moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences expérimentales et une licence appliquée en sciences infirmières, c'était en Tunisie. Après ma licence appliquée, j'ai reçu une bourse nationale d'excellence pour poursuivre mes études à l'Université Laval, donc en maîtrise et au doctorat. Et pendant ma maîtrise, j'ai réalisé un projet de recherche qui comprend essentiellement deux phases. Durant la première phase, donc c'était vraiment une étape préparatoire, j'ai procédé à la traduction et à l'adaptation transculturelle de l'outil Death and Dying Distress Scale pour la population franco-cubicoise. Et dans une phase principale, j'ai exploré les liens entre l'anxiété de la mort et les interventions d'accompagnement des infirmières auprès des personnes atteintes de cancer. Après ma maîtrise, j'ai commencé d'emblée mon doctorat en sciences infirmières aussi. Présentement, je m'intéresse plus spécifiquement à la proposition d'une conceptualisation multidimensionnelle de l'anxiété de la mort auprès vraiment de la même population, les personnes atteintes de cancer. Mon but, c'est vraiment d'aller plus loin, de creuser beaucoup plus au niveau de développement du concept pour proposer éventuellement un modèle ou une théorie infirmière qui s'intéresse vraiment à la définition, à l'opérationnalisation du concept de l'anxiété de la mort.
À un moment un peu plus tôt, tu as parlé d'un outil. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet outil?
C'était un outil qui est développé par des chercheurs anglais et c'est un outil unidimensionnel, donc qui comprend vraiment une seule dimension ou un seul facteur dominant qui mesure des préoccupations ou des pensées qui sont en lien avec l'anxiété de la mort, comme le fait, par exemple, la peur de la solitude, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui peut arriver après la mort ou la peur d'être un fardeau pour les proches. Et j'ai trouvé vraiment que c'est un outil très intéressant et très pertinent puisqu'ils étaient vraiment le seul instrument de mesure qui était vraiment validé auprès des personnes atteintes de cancer. Pour cette raison, dans mon projet de maîtrise, j'ai décidé vraiment de contacter les auteurs pour avoir leurs autorisations pour l'utiliser après dans mon projet de recherche. J'ai vraiment passé par plusieurs étapes pour procéder à l'adaptation transculturelle de cet instrument de mesure et pour vraiment le traduire et l'adapter au contexte québécois.
Cet instrument de mesure, c'est des questionnaires, c'est des entretiens avec des patients. Ça se passe comment pour utiliser l'instrument de mesure?
Cet instrument de mesure, il est basé essentiellement sur une échelle de réponse du type Likert, d'un point par exemple de 1 jusqu'à 5. Donc on demande vraiment au patient ou à la personne donc, qui répond à l'instrument de choisir le niveau d'anxiété de la mort qui correspond plus spécifiquement à sa situation, en répondant vraiment à chacune des préoccupations. Par exemple, l'une des préoccupations, j'ai peur, par exemple, de souffrir après la mort, ou j'ai peur d'être un fardeau pour mes proches durant, par exemple, la fin de vie ou à l'approche de la mort. Donc, on demande aux patients de répondre à cette échelle de mesure en spécifiant le niveau de son anxiété de la mort. Et à la fin, on calcule vraiment un score total qui varie de 0 jusqu'à 75 et on attribue vraiment une valeur ou on attribue vraiment un niveau particulier à l'anxiété de la mort de chaque patient. Par exemple, on peut vraiment dire que ce patient, il éprouve vraiment ou il présente un niveau modéré d'anxiété de la mort.
Tu me dis que tu l'as adapté transculturellement. Qu'est-ce que tu as dû adapter pour le contexte dans lequel tu travailles?
J'ai commencé par la traduction. J'ai contacté deux traductrices professionnelles professionnelle. Et après, j'ai fait une rétro-traduction vers la langue anglaise. Et après, j'ai contacté des médecins, des infirmières et des psychologues pour commencer vraiment l'adaptation transculturelle, puisqu'il y a vraiment certains concepts ou certains termes qui sont difficiles à comprendre ici au contexte québécois pour certains patients. Et l'un des concepts, c'était vraiment le dying ou le mourir en français. Et après vraiment la discussion avec les médecins, les infirmières et les psychologues, on a vraiment décidé de retirer ce concept et de garder juste celui de la mort en général, pour qu'il soit plus clair et plus simple à comprendre pour les patients.
En fait, t'as dit plus tôt que tu voulais mettre toi un outil qui était multidimensionnel. Est-ce que tu peux préciser un peu, ça veut dire que tu mets en place un nouveau questionnaire ou qu'il y a plusieurs scores en sortie de l'outil, c'est ça ?
Moi, dernièrement, j'ai passé mon examen de doctorat et j'ai même critiqué donc l'outil que j'ai adapté au contexte québécois dans le sens où j'ai trouvé que les chercheurs adoptaient une approche quand même réductionniste de l'anxiété de la mort, puisque le concept de l'anxiété de la mort, c'est un concept vraiment très complexe et multidimensionnel. Donc, il y a vraiment plein de dimensions qui peuvent vraiment définir ou qui peuvent vraiment contribuer à l'opérationnalisation ou à la mesure de ce concept. Et pour cette raison, dans mon projet de thèse, je vais vraiment m'appuyer sur cet outil et sur la littérature disponible pour proposer éventuellement un outil multidimensionnel, puisqu'on ne peut pas vraiment limiter ou réduire la mesure de l'anxiété de la mort à une seule dimension.
On a dit au début que tu étais en deuxième année de thèse. Ça se fait en combien de temps le doctorat au Québec, typiquement?
En moyenne, au moins 4 ans. Puisque vraiment, on a des séminaires obligatoires, 4 séminaires, 2 cours optionnels. Après vraiment nos cours, donc les séminaires et les cours optionnels, chaque étudiant doit passer 2 examens de doctorat, un examen rétrospectif pour faire des liens avec tous ses cours ou la littérature aussi disponible en lien avec son objet de recherche. Et après ça, donc, il doit aussi passer un examen prospectif en préparant un protocole de recherche, en préparant ou en rédigeant vraiment une problématique, une recension des la méthodologie de son projet de recherche et l'échéancier de l'élaboration de son projet. Pendant chaque examen, il doit vraiment présenter son travail à un comité qui évalue toutes vraiment les parties de son examen et qui lui attribue vraiment une note. Pour cette raison, par rapport peut-être à d'autres pays ou à d'autres programmes, on ne peut pas vraiment commencer d'emblée la rédaction du projet de thèse. Il faut vraiment terminer les séminaires et surtout, il faut vraiment travailler aussi sur les 2 examens.
Là, tu es dans la partie où vraiment tu mènes ton projet de recherche et tu as fini ces examens-là, c'est ça?
J'ai passé le premier examen, donc l'examen rétrospectif. Pour chaque étudiant, cet examen comprend toujours 2 questions qui abordent donc des notions qui sont en lien avec le cours, mais surtout vraiment avec l'objet de recherche de chaque étudiant. Donc il me reste de passer maintenant l'examen prospectif et de poursuivre la rédaction de ma thèse.
D'accord. Eh ben, bon courage pour cet examen, du coup. Quand t'as commencé tes études, est-ce que tu savais que tu voulais faire de la recherche ou initialement tu voulais faire du soin?
Moi, j'étais toujours, dès le début, intéressé par l'approche humaine, par vraiment les valeurs humaines qui sont reliées à la pratique infirmière. Mais c'est surtout vraiment après ma licence appliquée, j'ai décidé de me concentrer beaucoup plus sur la recherche puisque je trouvais ça comme un volet très intéressant pour faire avancer la pratique infirmière, mais aussi, j'ai trouvé quand même que c'est un axe ou c'est un volet qui m'intéresse donc beaucoup plus, surtout vraiment après mes stages. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui parlaient de plusieurs points qui sont liés à mon projet de recherche et j'ai décidé vraiment de poursuivre mes études à la maîtrise et après au doctorat pour m'intéresser presque uniquement à la recherche en sciences infirmières. Je trouve que pour moi c'est plus intéressant peut-être ou c'est plus enrichissant de me concentrer pour le moment juste sur la recherche pour vraiment faire avancer mes projets de recherche sur l'anxiété de la mort et pour après appliquer vraiment des interventions au niveau de la pratique ou contribuer vraiment aussi à l'avancement de la pratique infirmière.
T'as envie de rester en fait dans la recherche après ton doctorat?
Oui, mais c'est sûr, il y a toujours donc un lien à faire entre la pratique et la recherche. Donc, on peut vraiment aussi contribuer à l'avancement de la pratique en réalisant des projets de recherche. Mais moi, oui, donc je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est en lien avec la recherche et les projets vraiment des projets vraiment qui s'intéressent beaucoup plus donc à l'expérience vécue par des personnes malades.
Un aspect important du métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est la relation et la communication avec le patient. Donc j'imagine que c'est même extrêmement important pour toi dans le sens où tu collectes des données assez sensibles sur les patients. Et aussi le fait d'être à l'écoute du patient, ça fait déjà partie du soin. Est-ce que le fait de faire de la recherche et pas du soin ou moins du soin, c'est quelque chose qui change ta relation avec les patients et les patientes par rapport à, par exemple, des collègues qui font pas de recherche?
À mon avis, c'est non, puisque vraiment, j'ai trouvé que mes stages en Tunisie ont contribué beaucoup à augmenter ou améliorer ma sensibilité à l'approche humaine, à l'écoute, à l'empathie et vraiment aux valeurs donc humaines, donc qui relèvent vraiment de la pratique infirmière. Et en rencontrant plusieurs personnes malades, comme les patients atteints de cancer, j'ai pu toujours entendre leurs sentiments et leurs préoccupations, par exemple par rapport à l'abandon, par rapport à la solitude, à la douleur, à l'inconnu ou d'être un fardeau pour les autres. Et mes stages, je trouve que c'était vraiment l'un des points forts vraiment qui m'ont permis quand même de bien comprendre donc et d'être très sensible aux préoccupations et au vécu de cette population. En fin de compte, je pense aussi que le fait de se concentrer juste sur la recherche peut aussi limiter un peu la compréhension parfois de l'expérience. Pour cette raison, on a toujours dans un projet de recherche un côté qui est théorique mais aussi un côté pratique qui sont vraiment complémentaires. Donc tu dois vraiment toujours préparer une recension des écrits, une méthodologie, mais après on doit vraiment aller toujours sur le milieu clinique pour valider donc des approches ou pour valider des outils. Et durant ma maîtrise aussi, par exemple, j'ai rencontré 45 personnes atteintes de cancer. C'était des rencontres individuelles, mais j'ai pas eu vraiment de difficultés à communiquer bien avec ces personnes malades. Et j'ai pu vraiment faire des discussions très approfondies, très intéressantes en lien avec l'anxiété de la mort. Bien sûr, donc tout en mobilisant plusieurs outils et plusieurs vraiment valeurs humaines comme l'écoute, comme l'empathie, comme la disponibilité pour recevoir et pour comprendre les préoccupations et les pensées de chaque patient.
Ça existe en Tunisie, la maîtrise ou le doctorat en sciences infirmières, ou désolé, c'est complètement naïf comme question mais...
On a juste, pour le moment, la licence appliquée en sciences infirmières. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de doctorat, par exemple, en Tunisie. Et même vraiment la licence appliquée, c'est sûr. Donc, on a vraiment beaucoup de cours. Et à la fin, vraiment, de la dernière année, donc, en troisième année, on rédige vraiment un projet de recherche. Et j'ai rédigé plutôt un projet, donc, sur l'identité professionnelle chez les infirmières et les infirmiers en Tunisie. Mais ça reste encore vraiment un domaine peu développé, si on veut dire, donc, par rapport à d'autres pays.
Quand tu dis d'autres pays, j'imagine il y a le Canada, mais tu penses à quels autres pays?
Oui, c'est sûr. Au Canada, j'ai pensé comme en premier lieu au Canada, mais aussi aux États-Unis, peut-être. Donc, c'est plus développé, par exemple, par rapport à chez nous, donc en Tunisie. Surtout, vraiment, le domaine d'oncologie et des soins palliatifs. Il y a vraiment plein de sujets qui sont vraiment plus développés et plus accessibles aussi pour des futurs chercheurs, comme, par exemple, la question de la mort. On l'aborde vraiment beaucoup plus dans certains pays comme ici. Et comme la question de l'aide médicale à mourir aussi, donc c'est vraiment des questions qui sont traitées donc de plus en plus.
Ouais, le fait qu'il y ait une réflexion assez active, ça pousse aussi la recherche, ça encourage aussi à ce qu'il y ait de la recherche, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, il y a vraiment une évolution constante dans tout ce qui est vraiment en lien, surtout du domaine de l'oncologie, des soins palliatifs, et ça évolue vraiment presque chaque jour. Donc, si on parle par exemple de la question de l'aide médicale à mourir, présentement, il y a vraiment un grand débat sur l'élargissement des critères d'admission à l'aide médicale anticipée pour les personnes donc qui présentent par exemple des troubles mentaux ou qui présentent un Alzheimer. Donc, c'est un domaine vraiment qui évolue constamment.
Ok, merci pour ces précisions.
Merci à Malek d'avoir répondu à nos questions pour cette première partie. On vous donne rendez-vous le mardi 27 avril pour la suite de son interview. Merci d'avoir écouté cette première partie, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous envoyer vos éventuels commentaires et questions sur Twitter, Instagram, Facebook, ou à envoyer un mail à Je Science Donc Je Suis. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. Et surtout, si vous aimez notre podcast, On vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Ça nous fera extrêmement plaisir. À bientôt, dans les voies de la science.